Il est 19h23 sur Europe 1, François Claus.
Bonsoir Benjamin Muller.
Bonsoir à tous.
Alors, comme chaque jour, on va écouter les télés, les radios qui couvrent l'actualité. Et tiens, si on parlait des municipales aujourd'hui,
et 2020. Oui, ça y est François, ça y est, top départ, la bataille pour Paris est lancée.
Un remaniement attendu dans les prochains jours après le départ de trois ministres, Nathalie Loiseau pour les Européennes, Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux qui se lancent tous deux dans la campagne pour la municipalité de Paris.
Majoubi et Griveaux donc qui quittent tous les deux le gouvernement. Analyse de Gérard Larcher ce matin sur Europe.
Peut-être ça traduit un mode de gouvernance fait de verticalité. J'espère que le grand débat va nous permettre d'en sortir et peut-être de solitude du chef de l'État.
Alors, est-ce que ça traduit une solitude ? Bonne question. Ce qui est sûr, c'est qu'à croire ce journaliste de BFM, les débats entre les deux anciens ministres risquent d'être assez sympas les prochaines semaines.
J'attends quand même de voir dans les jours à venir comment ça va se passer parce qu'on sait que c'est très tendu entre Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux. Il y a quasiment une détestation entre les deux, hein. Le mot est faible.
Voilà pour l'ambiance et selon des sondages, Griveaux aurait ses chances de battre Anne Hidalgo. Commentaire tout en mesure sur RMC.
Mais on voit bien, elle sait plus quoi trouver à la veille des élections. Elle est peut-être inquiète, il y a eu un sondage, paraît-il, Griveaux serait devant elle. Griveaux 28, Hidalgo 24, elle serre les fesses.
Voilà, comme c'est bien dit. D'ailleurs, à propos de Benjamin Griveaux, ce matin, Nicolas Canteloup, version Bertrand Delanoë, lui a trouvé au moins deux points forts pour remporter Paris.
Un bon candidat, Benjamin Griveaux. En tout cas, il a deux qualités qu'il faut lui reconnaître. Il est très arrogant et les provinciaux le détestent. Ça prouve au moins qu'il est très parisien.
On le voit comme ça, les parisiens. Ça m'étonne. À droite aussi, on attend toutes les déclarations de candidature. On sait déjà que Rachida Dati s'est lancée dans la bataille. Analyse des journalistes Yves Tréhard et Alain Duhamel sur RTL.
J'ajouterais aussi le changement de stratégie de Madame Dati. Mais je vois chez elle, depuis qu'elle s'est déclarée candidate, un changement de discours, de ton et de présentation qui est évident.
Pourquoi elle est bien élevée maintenant ?
Voilà,
on sent qu'il fallait que ça sorte, ça fait du bien. Alors à propos de Mounir Majoubi, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est de réécouter ce qu'il disait il y a quelques jours sur BFM quand on lui demandait s'il allait quitter le gouvernement pour se lancer dans la campagne.
Regardez, c'est quoi notre actualité ? Notre actualité, c'est comment on rétablit la paix dans ce pays. Je pense qu'on a besoin de tout le monde et tous ceux qui partiront, c'est un peu de la désertion, donc il faut rester.
Oui, mais bon, c'était il y a au moins, lundi, il y a trois jours.
L'éternité.
Eh oui, le lendemain, mardi, il est venu ici même sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk.
Vous parlez de Paris. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, mon combat, vous l'avez entendu, ce sont les Européennes.
C'est d'être ministre.
Moi, je veux que ces Européennes, on les gagne. Et en tant que ministre, vous avez vu les transformations numériques qu'on a à mener.
Ok, alors ces objectifs européennes et le gouvernement, très bien. Et ce matin, sur France Info...
J'ai exprimé au président et au premier ministre l'envie que j'avais d'être là au service de Paris, d'être capable de me dédier à cette ville que j'aime.
Voilà François, nouvel exemple qu'en politique, la vérité d'un jour n'est plus du tout celle du lendemain, c'est tout.
Cruauté du jour et du lendemain, merci Benjamin Muller.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec vous François Claus et avec vos invités.
Les invités qui viennent d'entrer dans ce studio et vous au 3921, on attend vos appels, déjà beaucoup d'appels car cette question de la dépendance et du grand âge concerne évidemment toutes les familles. Nous sommes aujourd'hui, Omblin, dans la première génération où des retraités doivent prendre en charge leurs parents. C'était quelque chose qui n'arrivait pas jusque-là. Il y a la démographie, il y a la question financière, il y a une question de dignité également. Et c'est l'ensemble de ces questions-là qui se trouvent aujourd'hui, j'allais dire enfin, publiquement sur la table. Le rapport de l'ancien patron de la Sécurité sociale a été remis à la ministre du Travail pour étudier les pistes. Il va falloir de l'argent, beaucoup d'argent. Il va falloir trouver des solutions, sachant que dans le contexte d'aujourd'hui, il ne sera pas question de mettre un impôt de plus. Alors on va essayer de voir les pistes dans cette équation extrêmement compliquée qui se présente au gouvernement et qui concerne, je le disais, la manière dont on traite les plus anciens. Et c'est un bon baromètre également de la santé de nos sociétés. Nous ont rejoint dans ce studio, honneur aux dames, bonsoir Brigitte Dormont. Vous êtes économiste de la santé, professeur à l'université de Paris Dauphine. On a eu les détails de ce rapport. On était ces dernières heures dans des ballons d'essai, c'est au moins bien qu'il soit sur la table.
Tout à fait. Je pense que c'est bien de prendre le problème dans son entièreté. C'est-à-dire pas uniquement le financement, mais aussi les problèmes d'offre de prise en charge des personnes dépendantes. Et là, le rapport est très complet de ce point de vue-là.
Il est très complet et on va voir les pistes qui sont évoquées. Jean Arcelin, directeur d'EHPAD pendant 3 ans. Vous avez publié un livre qui a fait beaucoup de bruit. C'était le 7 mars dernier. Il s'intitule, le titre est parlant. Tu verras, maman, tu seras bien. Vous avez été directeur d'EHPAD et vous avez renoncé.
Oui, j'ai été directeur d'EHPAD pendant 3 ans. Ce n'était pas ma formation d'origine puisque j'ai fait carrière dans l'automobile de luxe, mais j'ai d'abord fait du bénévolat. Et en hommage à ma grand-mère, j'ai décidé de diriger un EHPAD pendant 3 ans avant d'arrêter, faute de moyens.
Et on verra votre témoignage et on verra les mesures dans le rapport qui peuvent éventuellement redonner confiance dans ce métier que vous aviez choisi. Pierre-Alain de Malraye est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du groupe Santiane, comparateur de mutuelles, santiane.fr. Alors vous avez travaillé sur plusieurs projets de loi de financement de la sécurité sociale. Il va y avoir une part forcément d'assurance, de privé, pour financer cette somme dont on parle, 10 milliards d'ici 2030.
Elle existe déjà, la part du privé, mais la question c'est l'articulation entre les dépenses qui seront des dépenses publiques et les dépenses de prévoyance des Français.
Et c'est ce débat que nous allons ouvrir. Nous vous attendons au 39-21. Ombline, c'est parti. Comment financer la dépendance ?
Vos invités François Claus ce soir sur Europe 1, Pierre-Alain de Malraye, président du groupe Santiane, comparateur de mutuelles, santiane.fr. Jean Arcelin, ancien directeur d'EHPAD, vous l'avez été pendant 3 ans. Vous sortez le livre « Tu verras maman, tu seras bien » chez Ixo. Et Brigitte Dormont, économiste de la santé, professeure à l'Université Paris-Dauphine.
Alors Madame Dormont, on disait là au moins le dossier est sur la table. Il a été repoussé à plusieurs reprises sous les deux quinquennats précédents. Ces rapports... conséquent, 175 mesures, 10 mesures d'urgence, 4 mois de consultation dans tout le pays. Si on doit faire le constat aujourd'hui de la situation de la prise en charge des personnes dépendantes, il y a bel et bien urgence à penser à 2030 et 2050.
Tout à fait, pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, la prise en charge actuelle est insuffisante. Et par ailleurs, nous savons qu'il y aura beaucoup plus de personnes dépendantes à l'horizon 2050-2060. Il y a eu des prévisions qui ont été faites et qui prévoient un doublement du nombre de personnes dépendantes à l'horizon 2060, un doublement de la dépense totale de dépendance si l'on restait dans les conditions actuelles. Et les conditions actuelles de prise en charge sont tout à fait insuffisantes à plusieurs égards. D'abord parce que la qualité des soins en EHPAD est désastreuse. Il y a eu beaucoup d'effets, beaucoup de faits divers qui ont illustré ça. Donc évidemment, il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les EHPAD, mais on sait que le taux d'encadrement est notoirement insuffisant. Et donc les soins pour la prise en charge de la dépendance, c'est de la présence. Il ne faut pas faire de gain de productivité quand on fait manger quelqu'un. Je crois que c'est très important
d'avoir certaines protections.
Voilà, il faut plus de personnes face aux personnes dépendantes. Donc la qualité est mauvaise. La couverture est très insuffisante puisque le reste à charge moyen des personnes en EHPAD dépasse la valeur d'une pension moyenne. Et par ailleurs, donc on sait que les besoins vont augmenter. La prise en charge actuelle repose aussi beaucoup sur de l'aide informelle. On parle des aidants et ce sont à 75% des femmes qui aident leurs parents dépendants. On sait qu'à l'avenir, il y aura moins de personnes disponibles et que les comportements vont sans doute changer à cause des réformes des systèmes de retraite. Les femmes qui aident leurs parents dépendants perdent beaucoup de points de retraite et maintenant la pression est mise à participer plus sur le marché du travail. Donc cette aide informelle va disparaître en partie. La qualité est insuffisante. Le nombre de personnes dépendantes vont augmenter. Donc on voit bien que dès à présent, il faut dépenser plus et il faut s'organiser pour pouvoir faire une prise en charge plus large.
Alors on va voir les pistes qui sont évoquées dans le rapport et vos témoignages pour évoquer justement cette possibilité de financer cette dépendance en France. On est sur le constat pour le moment. Et Jean Arcelin, vous qui avez été directeur d'EHPAD, votre livre « Tu verras maman, tu seras bien » aux éditions XO, sorti au début du mois de mars, ça fait beaucoup de bruit. Vous confirmez le constat que Brigitte Dormont faisait à l'instant. On ne peut pas traiter nos aînés comme ils sont traités aujourd'hui.
Je confirme le constat de madame. Je le nuancerai quand même. Je ne dirais pas désastreuse parce qu'il ne faut pas non plus dresser un tableau trop noir des EHPAD parce qu'on va faire fuir tout le monde, y compris les soignants et le grand public hein, dont on a besoin pour accompagner nos résidents. Moi, je dirais médiocre. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, puisque moi j'étais employé par un groupe commercial qui facturait des prestations mensuelles autour de 3000 euros. Et effectivement, on peut s'attendre à quelque chose, à une prise en charge supérieure. Ce qui m'a moi le plus choqué, c'est là pour illustrer concrètement ce que je dis, c'est une forme de maltraitance alimentaire. Quand on sait que pour 3000 euros, on va avoir des repas à 1 euro. C'est-à-dire que moi, j'avais 4,35 euros par jour. Donc, petit déjeuner, déjeuner, dîner, goûter, collation compris.
Et quand on sait que pour les personnes âgées, le moment du repas est un moment extrêmement important,
c'est très juste. C'est très juste parce qu'en plus, on est dans une génération de femmes qui cuisinaient, qui aiment ça. Et pour ces personnes très âgées, ça reste le seul moment peut-être convivial, puisque les deux tiers de ces résidents sont quand même relativement isolés, puisqu'un tiers n'avait pas de visite et un autre tiers peu de visite. Donc ces moments conviviaux sont essentiels. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que les hiérarchies et même les pouvoirs publics savent que les repas sont à 1 euro. Vous imaginez la qualité d'un repas à 1 euro. Eh bien, ça ne gêne pas grand monde. Voilà. On se dit, c'est pour des personnes âgées, dépendantes et gâteuses, entre guillemets. Ce sont des mots que j'ai entendus. Donc, ce n'est pas très important. Elles vont manger ce qu'on va leur donner. Et ça, c'est quand même quelque chose de révoltant parce que jusqu'au bout, même quand les personnes sont atteintes de démence en stade avancé, elles sont sensibles au plaisir et notamment au plaisir de la table.
Et tout le monde le dit. Pierre-Alain de Malleret le mérite au moins. On est là en train d'en parler avec des mots parfois crus et difficiles à entendre. Mais le débat est sur la table et il était temps.
Oui, il était temps, puisque s'il y a bien quelque chose qu'on peut voir venir, c'est le vieillissement de la population et l'arrivée au grand âge, comme le rappelait Madame Dormont, de générations qui sont de plus en plus nombreuses. Puisqu'on est au stade du constat, il y a quand même un élément très positif pour essayer d'enjoliver un peu le tableau de ce constat, qui est qu'on gagne une espérance de vie à un rythme qui est inédit dans l'histoire. On a, depuis la Seconde Guerre mondiale, dans notre pays, gagné chaque année de 2 à 3 mois d'espérance de vie. Et c'est de l'espérance de vie en bonne santé. Donc, il y a quand même à la base de ce débat et de ce besoin de financement. Aujourd'hui, le débat tourne beaucoup autour de qui va payer. Mais avant cela, il y a aussi le constat qui est que nous avons nos parents, nos grands-parents et nous-mêmes avons la chance de vivre plus longtemps en bonne santé.
Mais ce
qui est certain, c'est que c'est très prévisible.
21% des Français de plus de 85 ans qui sont aujourd'hui en EHPAD, ça veut dire aussi qu'il y en a 80% qui n'y sont pas. Qui n'y sont pas, et ce chiffre, il faut le rappeler également. Mais on était donc...
40% des personnes de plus de 85 ans sont en EHPAD.
Ah, c'est les derniers chiffres que vous avez. Alors, comme quoi, effectivement, on parle de 40
000 prises
en charge de plus
par an. On a 2 chances sur 3 de vieillir chez soi.
Voilà donc pour le constat qui est posé. Beaucoup d'appels. On prendra Paul qui nous appelle de Vendée juste après cette page de pub. Et après ce constat, les remèdes.
Jusqu'à 20h avec vous, François Claus sur Europe 1, Brigitte Dormont, économiste de la santé, professeur à l'université Paris-Dauphine, Jean Arcelin, ancien directeur d'EHPAD, auteur du livre « Tu verras maman, tu seras bien » paru aux éditions XO en début de mois, et Pierre-Alain de Malleret, président du groupe Santiane, comparateur de mutuelles, santiane.fr, 3921.
Et avec vous les auditeurs, nous avons Paul qui nous appelle de Vendée. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Heureuse de vous accueillir ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Paul, on attend votre témoignage, car vous êtes au quotidien au cœur de la question qu'on évoque.
Oui, effectivement, ça fait 20 ans que je suis directrice ou directrice régionale au sein des EHPAD. J'ai fait du privé à but lucratif et du territorial. Et je m'aperçois depuis 10 ans de la dégradation de nos conditions au sein des EHPAD par notamment une dispersion des interlocuteurs au niveau des instances, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on avait une personne dédiée pour les EHPAD à chaque EHPAD. Maintenant, c'est monté en régional et donc on n'a plus ce lien qui permettait d'avoir des aides, d'interpeller sur nos difficultés quotidiennes, d'essayer de les alerter de manière d'avoir vraiment un interlocuteur défini.
Cet interlocuteur, c'était à l'époque conseil général, municipalité
ou ARS ? Non, c'était ce qu'est aujourd'hui l'ARS, avant la DAS, et le conseil départemental.
Et là, vous pouviez évoquer les problèmes de manque de personnel, les problèmes de qualité des repas, les problèmes de prise en charge.
Les problèmes, surtout les problèmes personnels, quand on n'en avait pas assez ou quand on avait un manque, parce que les EHPAD, c'est une roue qui tourne, si vous voulez, au fur et à mesure des mois. On a parfois beaucoup de travail, parfois un peu moins. Et donc, dans les moments très difficiles, il était facile d'appeler et de dire, là, j'ai un manque. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose, une aide pour 3 mois, le temps que ça aille mieux, quoi. On avait un interlocuteur. Aujourd'hui, c'est une région, c'est beaucoup plus compliqué.
Et la situation s'est évidemment dégradée du fait également du plus grand nombre de personnes devant être accueillies en EHPAD. Sur ces conditions de travail dans les EHPAD, le rapport cet après-midi fournit des pistes très, très concrètes, Brigitte Dormont. Grosso modo, il faut 80 000 professionnels de santé en plus. Aujourd'hui, on a, il faudrait 13 postes pour 100 malades.
Alors bon, il y a beaucoup de discussions sur ces questions.
C'est compliqué à mesurer, bien évidemment.
On parle de taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont disponibles pour prendre en charge les résidents. La France est connue pour avoir un taux d'encadrement très bas. Donc là, j'ai des statistiques un petit peu anciennes, mais qui disent qu'il y a en gros 5,7, 6 personnes pour 10 résidents. Et ça, c'est très inférieur à ce qu'on a en Allemagne, en Suisse, dans plein d'autres pays où il y a 12, un peu plus de personnes d'encadrement pour les résidents. Alors, si l'encadrement est trop bas, donc moi j'ai fait des études sur les enquêtes là-dessus qui montrent très clairement que l'encadrement joue très directement sur ce qui se passe. On voit que les soins sont plus dégradants, les gens prennent plus de somnifères, on leur met des couches culottes même s'ils ne sont pas incontinents et du coup ils finissent par être incontinents. Il y a une mauvaise organisation des repas, donc moi j'ai lu donc, des cas de figure qui sont peut-être extrêmes mais qui sont abominables, c'est-à-dire qu'on doit faire manger des gens qui sont Alzheimer profond, et comme on a très peu de temps, quelques minutes pour donner tout le dîner, eh bien on mélange la soupe, les carottes et le dessert, et on mélange tout et on donne ça à toute vitesse. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument insoutenable. Si je peux évoquer un autre thème qui est dans le rapport, qui est très important, c'est la qualité de vie au travail des personnes qui travaillent dans les EHPAD.
J'allais y venir en parler avec Jean Arcelin, son livre nous fournit des témoignages extrêmement forts. Profession qui s'est dévalorisée, profession où il manque aujourd'hui de personnel et qu'il faut revaloriser, c'est dans les propositions.
Si je peux rajouter quelque chose, c'est le manque de qualité des soins crée une dégradation des conditions de vie au travail des personnels. Et les économistes, comme je le suis, ont fait plusieurs études en France, mais aussi dans d'autres pays, on l'a vu, en disant que c'est le pire marché du travail, celui où il y a le plus de turnover. Dès qu'il y a une relance économique, tout le monde part des EHPAD pour aller prendre d'autres emplois. Et ce n'est que quand le chômage remonte que les gens reviennent. Et donc là, on voit bien qu'il y a un problème très aigu de recrutement.
Alors ce problème a été pointé. Jean Arcelin, vous confirmez que ces professions doivent être aujourd'hui mieux payés, mieux encadrés, mieux formés.
Il faut d'abord leur rendre hommage, parce que si les EHPAD en France tiennent à ce jour-là, aujourd'hui, c'est grâce à la solidarité et à l'engagement et à l'humanité de ces personnes que j'ai vues travailler au plus près, puisque moi j'ai dormi 6 mois dans l'EHPAD et je les salue. Tous les soignants font pour une large majorité un métier qui est souvent magnifique et créer ce lien de solidarité dont on a besoin. Une nuance, le taux d'encadrement, d'ailleurs, ça mériterait d'être clarifié. Le taux d'encadrement comprend tous les employés dans un EHPAD, c'est-à-dire de la standardiste à l'homme d'entretien, etc. Après, il faudrait vraiment qu'on se mette d'accord. Le taux d'encadrement est effectivement tourne autour de 50%, mais le taux de personnel soignant est de 25%. Ce qui, compte tenu des roulements, du turnover, de l'absentéisme sauvage, etc., fait un temps de contact, parce que c'est ça qui compte pour les résidents, c'est le temps de contact effectivement très, très bas et très inférieure, madame a tout à fait raison, à l'Allemagne et à d'autres pays nordistes qui sont des exemples. Oui, il faut vraiment valoriser ces professions parce que c'est un métier, j'insiste là-dessus, c'est pour ça que mon livre, je pense, est tout à fait nuancé. Je parle des choses du pire, mais je parle aussi du meilleur. J'ai vu des choses magnifiques. J'ai vu des liens entre des soignants et des résidents qui étaient absolument superbes, jusqu'à la fin de vie, des soignants qui se substituent aux familles qui désertent. Et c'est une formation qui est accessible, la formation d'aide-soignante. On manque cruellement de main-d'œuvre. Actuellement, dans les EHPAD que je dirigeais, 25% des effectifs soignants ne sont pas qualifiés du tout. Donc, c'est une formation accessible. La France souffre d'un chômage de masse, 3,5 millions de personnes.
Alors que là, il y a un bassin d'emploi que
bien
très
sûr,
clairement le rapport...
Bien sûr, et qui permet d'avoir un emploi à vie. Et surtout, je pense, un emploi qui donne un sentiment d'utilité absolument incroyable.
Alors voilà cette question prioritaire de l'encadrement et des personnels. Il y a la question du financement et on va y revenir dans un instant avec Pierre-Alain de Malrey.
Votre grand journal du soir avec François Claus jusqu'à 20h30, 21 pour prendre la parole. Vous écoutez François Claus sur Europe 1 et vos invités ce soir, Brigitte Dormont, économiste de la santé, professeure à l'université Paris-Dauphine, Jean Arcelin, ancien directeur d'EHPAD, auteur du livre « Tu verras maman, tu seras bien » qui est paru chez Ixo, et Pierre-Alain Demalray, président du groupe Santiane, comparateur de mutuelles Santiane.fr.
Alors on évoquait à l'instant les priorités en termes de personnel, comment les former, comment les mettre auprès des patients et des personnes âgées en EHPAD. Il y a le problème du financement. Alors plusieurs pistes avaient été évoquées, on a parlé d'une quatrième branche pour la sécu, la protection sociale.
Cinquième.
On a parlé éventuellement d'un deuxième jour de Pentecôte, un deuxième lundi de Pentecôte, quand on travaillerait pour la dépendance. Il n'y en a qu'un. Et finalement, la préconisation du rapport, c'est que la CRDC, impôt que l'on paye depuis 1996 et qui visait à combler le trou de la sécu, devienne l'impôt de la dépendance. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, moi, je pense qu'on a un réflexe quasi pavlovien dans notre pays de se tourner vers les taxes. Dès qu'il y a un problème, on va se tourner vers les taxes.
Pas toujours très bien,
et on a vu d'ailleurs, à l'aune de l'actualité récente, qu'il y avait peut-être un sentiment de ras-le-bol en général sur la fiscalité. Donc sans doute, je dis ça un peu à titre de boutade, mais pas seulement, sans doute, dans ce grand besoin de financement que nous avons évoqué, il y aura une partie significative à combler par des dépenses publiques. On s'imagine bien que les recrutements dont nous avons parlé de personnel soignant, eh bien, seront financés par l'assurance maladie. On s'imagine bien que les personnels sociaux seront financés aujourd'hui par leurs financeurs actuels, qui sont en majorité les conseils généraux. Donc le financement public, je fais confiance au débat, pour trouver ou pour
on
faire le
concours Lépine. On rappelle qu'à partir de ce rapport, il y aura un projet de loi au moins à l'automne prochain et que rien n'est tranché. On
Absolument.
Est sur les pistes de réflexion.
L'annonce gouvernementale d'aujourd'hui, c'est que la ministre de la Santé a annoncé effectivement des mesures pour la fin de l'année sur ce sujet. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que en parallèle et en complément de l'effort public qu'il faudra faire, il existe des solutions de prévoyance individuelles et collectives pour se préparer à l'avenir.
Grosso modo, à partir de 50 ans, on met 15 euros de côté sur un compte qui servira à financer un éventuel risque de dépendance.
Ça s'appelle la prévoyance. Les Français le font pas assez en matière de retraite. Ils pourront le faire également. Il faut qu'ils le fassent également en matière de dépendance.
Alors les 15 euros, c'est sans doute un gros risque. Est-ce qu'ils y vont sur ce
Alors
chantier
les assurances y vont, mais je pense pas suffisamment bien puisqu'elles n'arrivent pas à convaincre suffisamment de Français. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 7% des personnes en âge de s'assurer qui ont un contrat d'assurance dépendance. Donc c'est un taux de pénétration qui est assez faible sur le marché français. Si on compare à d'autres marchés comme les États-Unis sont supérieurs. Israël, qui est un marché un peu lointain, mais qui est très intéressant d'un point de vue des comparaisons internationales, il y a 60% de la population israélienne qui s'est assurée spontanément pour le risque de dépendance. Donc c'est possible et s'il y a bien quelque chose qu'on peut prévoir, c'est ça. Donc ça consiste en quoi ? Ça consiste à mettre de côté avec un assureur, une mutuelle, une institution de prévoyance. Il n'y a pas forcément que des assureurs à but lucratif dans ce marché. Il y a aussi de nombreuses mutuelles qui accompagnent la prévoyance financière d'actions de prévention parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier. Il y a aussi l'ensemble des services, la prévention, l'aide aux aidants. On parlait beaucoup des aidants tout à l'heure. Et il y a beaucoup de progrès à faire sur l'assurance, parce que pourquoi est-ce que l'assurance ne marche pas ou marche peu aujourd'hui ? C'est que c'est un parcours du combattant pour s'assurer. Il faut faire des tests de sélection médicale, il faut essayer de comprendre la complexité des contrats, il y a des grilles d'évaluation de la dépendance. Qu'est-ce qu'on appelle dépendance ? Alors, pour les experts, il y a des grilles qu'on appelle agir, les
oui,
actes
de l'individu, etc. Gire 1, Gire 2, Gire 3,
on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est très complexe. Et moi, ce que je suggère aux acteurs qui veulent accompagner ce mouvement de prévoyance, c'est de simplifier leurs contrats et leurs propositions au maximum.
Et l'autre urgence, Brigitte Dormont, c'est de maintenir ce système français de protection sociale qui pourrait être, allez, on va dire, écorné, menacé par un financement de plus en plus privé si la puissance publique n'est pas là.
Tout à fait. Alors moi, on a été assez chahutés aujourd'hui, puisque ce matin, tout le monde disait il va falloir retarder l'âge de départ à la retraite pour financer la dépendance. Et c'est un bruit qui a été agité par je ne sais qui, puisque...
On appelle ça des bulles dans
voilà,
le monde politique.
Exactement,
on lance une bulle et on voit
puisque
comment
dans le rapport Libault, il y a peut-être entre les lignes une vague allusion à ça, mais c'est tout. Et il est affirmé...
La cinquième branche également abandonnée.
Ah si, il est écrit, le financement public de la perte d'autonomie liée à l'âge est privilégié. Donc là, pour rebondir sur l'idée de prélèvement obligatoire, je trouve que c'est remarquable. C'est remarquable que ce gouvernement qui met l'accent sur surtout ne pas toucher au prélèvement obligatoire, mette le focus sur un financement public. Et ça montre bien, parce que c'est quand même un problème qui est sur la table depuis 20 ans. Et l'idée d'assurance privée obligatoire a été discutée depuis 10 ans. Que ce rapport dise « on privilégie le financement public solidaire », c'est remarquable et il faut le comprendre bien à fond. Ça signifie qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions pour le gros du financement.
Et en espérant que le trou de la sécurité sociale soit effectivement bouché en 2024, selon les prévisions qui sont fournies par le gouvernement. Le mot de la fin, pour l'homme du terrain qui l'a été, Jean Arcelin.
Oui, le mot de la fin, c'est que il faut, à la fin du livre, je donne quelques conseils parce que là, il y a quand même une alternative à l'EHPAD. L'alternative à l'EHPAD, c'est bien sûr le maintien à domicile. Et il y a de nouvelles formes d'EHPAD qui sont des structures intermédiaires qui voient le jour au Danemark, qui sont formidables. Et je conseille à toutes les personnes de plus de 50 ans d'envisager de vieillir avec leurs amis et de construire une sorte de maison du bonheur. Mais c'est très sérieux, où on mutualise nos moyens et en plus, on se stimule en disant « tu te souviens de ci, tu te souviens de ça ». Et ça peut être vraiment une alternative à l'EHPAD qui n'est pas une fatalité.
Une colloque,
c'est formidable et ça fonctionne.
Et c'est une très belle chute que vous nous offrez en fin d'émission. On aurait aimé, allez, on va en reparler d'ici l'automne parce que le débat, vous l'avez compris, il est à la fois complexe mais aussi très humain. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Merci à vous. Je rappelle que, allez, lisez, tu verras maman. Tu seras bien, guillemets, évidemment, édition XO, signé Jean Arcelin. Écoutez Brigitte Dormont, économiste, spécialiste de ces questions de santé. Et puis, allez sur santiane.fr avoir un comparateur et avoir des données plus précises encore que celles que Pierre-Alain de Malleret nous a données ce soir. On retrouvera Mathieu Béliard demain, mais pour l'heure, sur Europe 1, musique. Bonsoir Émilie Mazoyer.
Salut François Claus.
Qu'est-ce qu'on écoute ce soir?
Alors ce soir, on n'est pas très poli, on va au cinéma, mais on reste debout et on chante très fort. C'est tout nouveau, ça s'appelle l'écran pop et à Paris bientôt, ils passeront Bohemian Rhapsody.
Oh mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go.
Et on aura le droit de chanter dans la salle. On va donc en parler avec la femme qui a eu cette très bonne idée qui s'appelle Natasha Campana.
Et ça nous renverra peut-être un peu aux années 70 où il y avait certains films cultes cette ambiance-là dans les salles de cinéma. Eh bien, à tout de suite, on va vous écouter évidemment comme chaque soir avec passion et intérêt, Émilie Mazoyer.
Merci François.
Merci François Claus. À tout de suite avec Isabelle Mille pour l'information sur Europe 1.
Europe 1.